Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Les Géorgiques est le nouveau roman de Claude Simon. Les Géorgiques est un roman français de Claude Simon, paru en 1981. Son titre est une référence à l'œuvre de Virgile, Les Géorgiques. Cette œuvre abrite trois intrigues entremêlées, trois récits imbriqués concernant le général et conventionnel Jean-Pierre Lacombe Saint-Michel, l'écrivain anglais George Orwell, milicien républicain en 1936 à Barcelone, auteur d'Hommage à la Catalogne et du roman de science-fiction 1984. Et enfin, Claude Simon lui-même, cavalier en 1940, subissant la retraite de l'armée française au mois de mai 1940, le bombardement de son régiment de cavalerie par l'aviation allemande, le passage de la Meuse, une embuscade tendue par l'ennemi et enfin l'internement dans un camp de prisonniers. Les Géorgiques sont parus en 1981. Après 6 années d'écriture, sans autre publication durant cette période, elle constitue l'une des œuvres majeures de Claude Simon. Cet ouvrage lui valut sans doute le prix Nobel de littérature en 1985. Lacombe Saint-Michel avait été en 1810 gouverneur militaire de Barcelone en proie à la guerre, comme elle était à nouveau la capitale de la Catalogne en 1936, lorsqu'y séjournèrent George Orwell et Claude Simon lui-même. Et ce dernier, descendant du général, a subi à nouveau la guerre en 1940 dans un lieu, la vallée de la Meuse, où l'officier avait autrefois exercé des commandements militaires. Claude Simon est né le 10 octobre 1913 à Tananarive, Madagascar, d'un père militaire dans les troupes coloniales. Son père meurt le 27 août 1914 près de Verdun, au début de la Première Guerre mondiale. Sa mère est issue d'une famille du Tarn. Elle descend du général Jean-Pierre Lacombe Saint-Michel, député à la Convention de 1792 à 1795. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, durant l'été 1919, sa mère l'entraîne sur les champs de bataille, à la recherche de la tombe paternelle. Il racontera ce périple traumatisant pour un enfant de 5 ans dans l'Acacia. À partir de 1914, sa mère et lui vivent à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Il commence ses études secondaires en 1924 au lycée François Arago de Perpignan. Sa mère, elle, décède d'un cancer en 1925, alors que l'enfant n'a que 12 ans. L'éducation de Claude Simon est prise en charge par sa grand-mère maternelle. Il devient alors élève du collège Stanislas à Paris de 1925 à 1930, puis du lycée Saint-Louis. Il est bachelier en 1931. Il se consacre ensuite à la peinture et à la photographie. Il fait connaissance de sa première compagne, Renée Krog, avec qui il vivra jusqu'en 1944. De 1934 à 1935, il fait son service militaire au 31e régiment de dragons, caserné à Lunéville. L'année suivante, il commence à écrire. Au début de la guerre civile en Espagne, le 18 juillet 1936, il se rend à Barcelone, bastion républicain face aux rebelles franquistes, et décrit cette expérience dans son roman « Le Palace ». En 1937, il effectue un voyage qui le conduit en Allemagne, en Pologne et à Nurse. Il se lance dans l'écriture d'un premier roman, « Le Tricheur », publié en 1945. En septembre 1939, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il est mobilisé au 31e régiment de dragons. Fait prisonnier par les Allemands après le désastre subi par l'armée française en mai-juin 40, il est transféré dans un camp de prisonniers de guerre situé en Saxe. Il s'en évade et réussit à revenir à Perpignan, alors en zone libre. Craignant d'être arrêté après l'occupation de cette zone, le 11 novembre 1942, à la suite du débarquement allié en Afrique du Nord, il se rend à Paris où il habite jusqu'à la libération, en 1944, participant à la résistance. Le 7 octobre 1944, son épouse, René Krog, se suicide. Après la guerre, il devient viticulteur en Roussillon, tout en se consacrant à son œuvre littéraire. En 1951, il épouse Yvonne, divorcée de Marc Saint-Saëns, un descendant du compositeur et elle-même peintre et sculpteur. Édité par les éditions de Minuit à partir de 1957, Claude Simon est très vite classé parmi les auteurs de l'école du nouveau roman, aux côtés notamment d'Alain Robbe-Grillet et de Samuel Beckett, lauréat du prix Nobel de littérature en 1969. Ses livres les plus connus sont « La route des Flandres » 1960, « Histoire » prix Médicis 1967 et « Les Géorgiques » 1981. Le prix Nobel de 1985 récompense un auteur qui, dans ses romans, combine la créativité du poète et du peintre avec une conscience profonde du temps dans la représentation de la condition humaine. Le nouveau roman désigne un groupe de romanciers français publié aux éditions de Minuit par Jérôme Lindon dans les années 1950 et qui rejette les principales caractéristiques du roman classique hérité du réalisme balzacien ou standalien. Il fréquente le peintre Pierre Soulages et correspond avec Jean Dubuffet. En 1960, il signe le manifeste des 121 contre la guerre d'Algérie, ce qui lui vaut une inculpation. En 1962, son couple avec Yvonne s'est refroidi. Il fait la connaissance de Réa Caravas, une Athénienne de 34 ans. Le divorce avec Yvonne est prononcé en 1977. Claude Simon épouse Réa Caravas en 1978. En 1981, Les Géorgiques parut au bout de 6 années d'écriture, sans autre publication durant cette période, est un de ses romans majeurs. Claude Simon meurt le 6 juillet 2005. À l'âge de 91 ans, il est inhumé à Paris, au cimetière de Montmartre. C'était un tout petit cimetière, circulaire, d'une 20aine de mètres de diamètre au plus, entouré d'un mur de pierre meulière comme on en voit au pavillon de banlieue, et dont les piliers de chaque côté du portail étaient surmontés d'une croix de fer peinte en noir. La majorité des tombes étaient celles de soldats allemands, mais elle alla tout droit à l'une d'elles, un peu à l'écart, que sans doute quelqu'un qui avait eu pitié d'elle, ou peut-être avait simplement voulu s'en débarrasser, lui avait indiqué, sur laquelle, en allemand, et sur une plaque métallique, puis en français sur une planchette, plus récemment apposée, était simplement écrit que se trouvaient les corps de 2 officiers français non identifiés. Il avait enfin cessé de pleuvoir, et un soleil de fin d'été jouait au-delà des murs, sur les feuillages du petit bois. Le cimetière était situé en arrière et à l'est de la zone d'environ 10 km de large que semblait avoir suivi l'espèce de tornade géante détruisant tout sur son passage, dont certaines branches commençaient à dorer. Elle s'avança jusqu'à l'inscription, la lut, recula jusqu'à l'endroit où devaient approximativement se trouver les pieds des morts, fléchit les genoux puis se releva, fouilla dans son sac, en sortit un mouchoir qu'elle étala sur le sol, s'agenouilla alors, fit s'agenouiller le garçon à côté d'elle, se signa, et abaissant la tête se tint immobile, les lèvres remuant faiblement sous le voile enténébré. Quelque part dans les feuillages, encore mouillés, étincelant dans le soleil, un oiseau lançait son cri. Il n'y avait personne d'autre dans le cimetière que les 3 femmes et l'enfant, c'est-à-dire la veuve et le garçon âgé, mouillés, et un peu en arrière, les 2 autres femmes debout tenant à la main leurs sacs et leurs parapluies refermés, immobiles, les lèvres immobiles dans leurs immobiles visages ravinés, leurs yeux soulignés de poches, bordés de roses, couleur de faïence. Enfin, depuis le temps qu'il était mort, il ne devait plus en rester grand-chose, j'imagine. Et même si elle avait trouvé une tombe dans son nom écrit au-dessus, qu'est-ce, Probablement, elle avait dû penser à ça et le ruminer dans sa tête du jour où elle avait appris qu'il avait été tué. Et que tu vois l'endroit où ton père est tombé et que tu n'oublies jamais dans ma mémoire d'enfant. Je me souviens de cette table de billard où nous avons dormi, elle et moi, à Stenay, parce que l'hôtel était plein d'Américains Battlefield, et sa figure encore grasse alors et blanche, et l'odeur de ses crêpes rugueux, poussière de ses voiles noires qu'elle portait encore et sa corpulence. Je sentais les busques de son corset, que tu n'oublies jamais. Et alors, ce fut ce petit cimetière fleuri, dans ce bois où il y avait juste une dizaine de tombes et une où il y avait écrit « Un officier français et un officier allemand, 1915 ». Et elle a dit « C'est peut-être lui, fais ta prière ». Digne et douloureuse, drapée dans ses voiles noires, veuve orgueilleuse dans son malheur, je soupçonne, oui, avec peut-être même une certaine complaisance, un soldat comme ton père, et, si tu en avais des dignes, prêtre. Et ses yeux brillaient. Le petit bois était plein de soleil et frais. C'était le printemps, je crois, et on sentait l'odeur de la terre molle et des feuilles mouillées. Côte à côte avec son ennemi, les oiseaux. Quelle grotesque farce! Comment a-t-elle pu rester des années ainsi à ruminer sa douleur, gluante et froide dans sa bouche, gardant sa photo près de son lit, en tenue de capitaine, lui rappelant sans cesse par son regard silencieux tout son passé exigeant. Le brillant officier de la garnison, valsant avec sa robe blanche, gonflée de dentelles comme un ballon, sous les lustres du salon aux meubles dorés, et peut-être une déclaration sur un banc de pierre, nuit douce, où les lilas sentaient si fort, leur parfum suffocant, ses moustaches penchées sur le golfe nu et brillant, dans la nuit de son corsage étoffé, taffetas bruissant et tiède haleine. Et enfin, il y avait moi, présent, l'image vivante de son père, du diable si je dois lui ressembler, digne de lui, un officier. C'était la chronique littéraire de Gilles Labourois. À bientôt.